voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Mathilde Wagmann rencontre Jean-François Stévenin. Ce soir, Alain, François, Jacques et les autres.
Bonsoir Jean-François Stévenin.
Bonsoir Mathilde.
Hier, vous nous avez raconté comment, pendant vos études à HEC, vous vous êtes retrouvé embarqué dans un voyage à Cuba. Et c'est là que vous avez travaillé pour la première fois sur un tournage. Vous nous avez dit que ça avait été un déclic pour vous, qu'après ça, vous aviez envie de travailler dans le cinéma. À votre retour en France, on est vers 1967. Vous envoyez des lettres pour essayer de vous faire une place dans ce milieu du cinéma, mais ça marche pas très bien. Alors, quel a été le moment où l'hameçon a mordu, enfin, où ça a fini par marcher?
Alors là, c'est une belle histoire de vie, là. J'étais copain avec un gars qui était à l'ESSEC, lui. Petite école, compris à HEC.
Votre école de commerce.
Ouais. Et qui était Vincent Mal, frère de Louis Mal. Bon, il vivait avec une fille qui était Elisabeth Rapneau, sœur de Rapneau.
Le réalisateur.
Bon, Rapneau, qui était scribe sur Le Voleur à l'époque, avec Jean-Paul Belmondo. Et Elisabeth Rapneau, quelques mois plus tard, est engagé par Alain Cavalier pour être script sur La Chamade, film avec Deneuve et Piccoli. Et elle entend dans le bureau que les frères Mouchkine, qui produisent le film, disent « Voilà, on veut un second, mais on ne peut pas payer un second, donc on va prendre un stagiaire, qui a une expérience de choc. »
Ça aurait été un second assistant réalisateur.
La première assistante étant Florence Malraux, fille de Malraux, et qui fait... Et Babou dit, oh, ben, moi, je connais Elisabeth Rapneau, dit, moi, je connais quelqu'un qui... Donc, je suis convoqué, et je vais Champs-Élysées. On boit un petit café le matin avec Florence Malraux, qui fait 1m50, qui est toute timide, et Alain Cavalier, et j'explique que j'ai absolument pas la carrure, j'ai un mauvais point. C'est que je sors d'HEC. Ensuite, j'ai vaguement été à Cuba sur un film, apporter des verres d'eau et des cafés. Donc, je n'ai pas du tout la carrure pour ça. Et là, Cavalier, c'est les changements de vie. Il m'a dit, Jean-François, on va quand même essayer. Oula, là, c'est parti.
Qu'est-ce que vous avez fait alors, finalement, sur ce tournage de La Chamade? On peut peut-être rappeler que La Chamade, c'est donc l'adaptation d'un roman de Françoise Sagan. Ouais. Catherine Deneuve y interprète le rôle principal. C'est l'histoire d'une jeune fille oisive, et puis ça ne va pas très bien se passer pour elle, mais c'est un film qui est assez dans l'esprit de l'époque. On est en 1968, je crois. Ouais. Vous, concrètement, sur le tournage, quelle a été votre fonction?
Moi, j'avais deux fusées au cul. Hein. Je me suis dit, si... quelqu'un se rend compte que j'ai jamais fait un film, c'est fini. L'histoire va pas passer les plats, hein. C'est là ou jamais. Et la carrière a bien failli s'arrêter le premier jour. On tourne avenue Victor Hugo, dans le 16e, hôtel particulier. Il y a un grand escalier, de neuf en bas, qui rentre avec Piccoli. On a été à dîner chez l'amour, tout. Il y a un grand escalier, moi je suis dans l'escalier, de ce temps-là il n'y avait pas de Toki. Il y a un gros régisseur, Drouin, je me rappelle, les noms me reviennent, qui a des pompes énormes, qui descend l'escalier, lui qui est en haut, il va arriver pendant le plan. Donc mon boulot, moi, c'est déjà de faire silence, on m'a expliqué ça. Premier jour de tournage, hein. Je sens que le mec va arriver, que c'est la fin de tout. Il m'échappe, coupé. Mec à la caméra, Testarossa, Pierre Lhomme, caméra, enfin, tu vois,
grand chef
opérateur. Il y a du monde, hein.
L'autre de la coupe. Nouvelle vague, entre autres.
Tout le monde se retourne vers moi, dont Alain Cavalier. Je m'étais dit, bon, ben, midi, c'est fini, quoi. Il se remet, moteur, et ça repart. Il ne s'est rien passé.
Vous avez survécu à ce
le même jour, mais le lendemain, un clap, il n'y a personne pour faire le clap, Deneuve est là, moi je veux bien faire. Ce qui est formidable dans ce métier, c'est que ça ne s'apprend pas, c'est que de l'instinct. Deneuve est là, le clap, bon, 172, je tape le clap, il y a un nuage de craie qui monte dessus. Ah, je me dis ça, là ça va être encore, elle fait... C'est pas grave, Jean-François. Il tourne. Moi, je me suis dit, ça, faut pas le faire. Alors, depuis, dans les grands films que j'ai tournés, où j'ai eu la chance de pouvoir Chaque fois, j'ai vu des chefs machinaux qui font le clap. T'entends pas, c'est juste.
On est en 1968. Ouais. Est-ce que vous avez le souvenir des événements du mois de mai? Est-ce que vous étiez en plein tournage, justement, à ce moment-là, sur la Chamade? Est-ce que vous avez pris part aux événements, Jean-François Stévenin?
On continuait complètement. Avec l'ingénieur du son qui disait « Putain, il y a encore des grenades, non mais coupe, c'est pas possible, papa !» Mais on continuait. C'est là que j'ai vu que quand tu fais un film, il n'y a plus que ça qui existe. L'époque était dans un tremblement absolument magnifique. Moi, j'allais le matin au tournage en essayant d'éviter les arbres qui avaient été coupés, en me disant « je vais arriver en retard ». On tournait. Et puis un jour, ça s'est arrêté parce qu'on était place des Victoires. Il y avait une scène avec les effets spéciaux de pluie. Camion de pluie. Oh, c'est la pauvre Catherine qui devait prendre un bus. Bon, il y a un bus, elle est là, elle doit monter dans le bus. Bon, figuration, tout ça. Je m'occupe de tout. Parce que je croyais que c'était normal à l'époque. Mais il n'y avait pas d'assistant, moi. C'était très, très intéressant parce que je faisais le boulot de trois personnes. Tac, on règle tout, c'est tout. Hein. Dernier moment, on va tourner. Il n'y a plus de conducteur de bus. Et Alain me dit, mais c'est pas grave, Jean-François, vous conduisez le bus qui doit faire 10 mètres. J'arrive, il n'y a pas la clé. Ah, ben stop, il est 17 heures. 2 heures après, on était à la bourse ou je ne sais pas où, Assemblée Générale. Pff, film arrêté, forcément. Et là, il y a eu 5 semaines absolument délirantes.
Vous avez pris part aux manifestations?
Pas de manif, moi j'avais horreur de ça. J'avais très peur. Je m'étais dit, si un flic me tape avec un bout de bois, je monte sur un toit, j'ai le Winchester, j'en allume un. C'est dangereux. Je pouvais pas admettre ça. Donc j'avais un talent terrible pour éviter toutes les manifs. Mais par contre, les assemblées générales, puis il y a eu l'époque bénie, où pendant, je sais plus, 3 semaines, personne, la rue nous appartient. Complètement, on était à l'Odéon tous les soirs. Les mecs étaient là, on échangeait des clopes. Il n'y a pas d'essence, tout le monde à pied. Une fraternité dans les rues que j'ai jamais vue, avec des mecs qui venaient témoigner, un CRS qui venait sur scène, qui racontait, on l'applaudissait, on disait non, le gars de la sécurité, ça va s'effondrer, le plafond, il y a trop de monde, il faut sortir. Ouais, qu'est-ce que tu me fais chier, toi, on fait ce qu'on veut. Tout occupé, Paris libre. Pas de flics, pas d'essence, pas de bouffe, tout le monde se débrouille. Une entraide entre les gens, tout le monde discutait, on passait des nuits dehors et le film arrêté. Et d'un seul coup, les affaires ont repris parce que De Gaulle était revenu. C'est là qu'il avait prononcé un discours. On était gare de Lyon, avec Cavalier d'ailleurs. Et l'autre parle de la chienlit et des paras qui vont venir et tout. Ouh là là là. Et là, grosse déception parce que il fait ça, c'est très habile. Un vendredi soir, 2 heures après, t'as les postes à essence qui se remettent à marcher. Tout le monde épuisé se barre, s'en va. À Fontainebleau, n'importe où, pour rouler, pour faire marcher les bagnoles. Le lundi matin, je vois lever de la victoire, les commerçants qui se font lever de la victoire. Il n'y avait plus un mégot par terre, plus une vie de casse. Il ne s'était rien passé. Et là, il a fallu reprendre le film. Alors ça, c'était assez rigolo, parce qu'on est à la production. Et là, on surveillait les films qu'elle est repris, parce que nous, on avait voté. Enfin, nous, il y avait un nombre incroyable de motions, de machins dont il n'y a rien resté. On avait dit, aux chiottes Gaumont, fin du monopole, le CNC sert à rien. Tout le monde, le bras tendu, doit voter à 100%. Donc le film qu'allait reprendre était dans le collimateur, sérieusement, par les syndicats, par tout le monde. Et le Dantigeur, Oscar Dantigeur, magnifique, que j'ai retrouvé plus tard sur la Révolution française, longtemps après, était là, le russe complet était là, en disant « il faut finir ce film, voilà ». Il reste un tournage à Saint-Tropez. Une semaine de tournage, il faut finir ce film. Donc, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le chef machinot, monsieur le chef électro, monsieur machin, monsieur... Alors, tout le monde dit ce qu'il veut. Ça arrive à moi, et je dis « moi, je suis tellement content de faire ce métier que moi, je paierai pour ». Là, il y a un silence. Tout le monde s'en va. Là, ça m'a valu l'hostilité de gars avec lesquels je suis redevenu copain après. Mais là, ça a failli être... J'étais un vendu total, quoi. Le film reprend et on n'emmène pas le stagiaire, c'est-à-dire moi. Pareil, Cavalier me re-sauve un coup de machin. On sort de cette réunion. Il vient vers moi, il sort un billet de 500 francs qu'il met dans la poche. Il me dit « Jean-François, à lundi. » J'avais pas le droit d'y aller, moi. Donc, j'ai pris une bagnole et tout. Je suis allé voilà, à Saint-Tropez avec Alain qui avait payé le voyage.
Ce film, La Chamade, c'est le point de départ d'une longue période au cours de laquelle vous avez été l'assistant de plusieurs metteurs en scène dans toute la décennie qui a suivi jusqu'à la fin des années 70. Vous avez travaillé notamment avec François Truffaut, ensuite avec Jacques Rivette, avec Jacques Rosier. Je voudrais qu'on parle d'abord de François Truffaut. Vous avez été assistant et d'ailleurs à d'autres postes techniques sur plusieurs de ses films. Il y a eu La Sirène du Mississippi, L'Enfant Sauvage, Une belle fille comme moi et La Nuit américaine. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé embarqué dans l'aventure François Truffaut-Jean-François Stévenin?
Là aussi, il y a une belle histoire de vie parce qu'après La Chamade, il n'y avait plus rien. J'ai fait un film fait par un ancien HEC. Je me rappelle, j'étais sur un tournage, il filmait documentaire sur les fromages. Jean Chapeau, il s'appelait, ancien HEC qui filme des fromages. Moi, j'ai dit là, c'est plus du cinéma que je croyais. Pas de boulot, mais je suis pas retourné dans le giron, quand même, d'HEC à reprendre un... Non, je pouvais plus. Et d'un seul coup, hop, Sirène du Mississippi, Daniel Valcroze, on avait entendu parler de moi par Michel Auclert, que je connaissais d'avant, avait donné mon nom. Par hasard, les gars de chez Truffaut trouvent ce truc, je suis convoqué au bureau.
Au film du Carrosse,
film du Carrosse. Ah, et là, Deneuve avait dit... Et Deneuve avait dit, oh, c'est Jean-François, je le connais, il est très bien. Donc, hop, engagé. Et après, plus rien, parce qu'ils partent à La Réunion, je me rappelle. Et moi, je suis pas sur le tournage à La Réunion.
Pour La Sirène du Mississippi.
Pour La Sirène du Mississippi. Et là, je vois une neige dans Paris, je vois la une de François. Belmondo épouse Catherine Deneuve, entre un, pour les premiers tours de manivelle de La Sirène du Mississippi. Je me dis, mais moi, je suis même pas là, il m'appelle pas, enfin bon. Et puis après, ça a enfin embrayé. Et là aussi, c'est pas triste, parce que première mission, Jean-François, vous allez, Claude Miller, qui est devenu le grand Claude Miller d'après, mais là, qui était directeur de production, régisseur et tout. Jean-François, vous allez dans le 16e chercher la voiture de Truffaut, dans le garage, les clés. Ensuite, vous allez à LTC chercher des étiquettes au laboratoire et des trucs pour les rushs, etc. Ensuite, vous mettez la voiture sur le train et demain, vous arrivez à Nice et là, Negresco, et vous donnez la clé. Ça fait bizarre. T'es dans la voiture du patron. T'as envie d'ouvrir la boîte à gants, voir un peu. Bon, là, je fais rien du tout. Et c'était le premier jour où il y avait un Spoutnik autour de l'espace, un mec dans l'espace. Et il y avait gelé blanc sur Paris. Moi qui suis du Jura, je me dis gelé blanc, pas de problème. Je conduis la bagnole vraiment lentement, j'arrive près du périph, près de Saint-Cloud. Et là, la bagnole part en toupie. Je vois un camion qui passe à droite, un autre à gauche. Alors là, j'ai vu là. Je pensais pas à ma vie, mais je me suis dit, fin de l'assistana, quoi. On va dire, le stagiaire, il a bousillé la caisse. Et je me rappelle, elle touche le trottoir, la radio s'arrête, et j'avais rien. Je prends le truc, labo, LTC, le train, je suis avec René Levert, qui est ingénieur du centre Godard. Tout ça, c'est quand même plutôt impressionnant. Le train couchait, le lendemain, je venais Gresco, je mets la clé, et basta. Mais on tourne. Et là, je vois, personne m'a présenté, que dans l'œil de Truffaut, on tourne à côté à l'hôtel Masséna qui servait de clinique dans le film. Et là, je vois que Truffaut, comme il y avait des voitures que moi je garais, c'est la seule fois où j'étais vraiment stagiaire parce qu'il y avait un premier ferré qui était Jean-Jules Richer et un second, donc moi j'étais le stagiaire de choc. Là, je garde les voitures et je vois dans l'œil de Truffaut qui me prend pour un débile du coin qui garde les bagnoles pour se faire un peu de thunes. Et à la fin, je reconnais Jean-José, le premier assistant. François, je ne vais pas présenter. Voilà Jean-François Stévenin qui va nous accompagner. Ah ! Et c'est là que la longue histoire a commencé.
Quel souvenir vous gardez de François Truffaut ? Comment était-il sur les tournages, Jean-François Stévenin ?
La discrétion. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de talkie. Tout marchait par regard. Une espèce d'attention aux gens formidable. Tout en lâchant jamais le morceau de ce qui l'intéressait lui. Une douceur fêlée et brillante dont il ne faisait pas état. Et je me rappelle quand on tournait à Sirène, avec Jean-Paul, on était au Sapé, près de Grenoble, il faisait vraiment froid. Je voyais arriver le matin, je tournais la tête pour pas avoir à lui dire bonjour. Parce que je me disais, s'il dit bonjour à 40 personnes, ça a eu 40 minutes de moins sur la journée de tournage. J'avais des réflexes comme ça, ce qui est vrai. Et là, les rapports feutrés, tous les tournages sur La Sirène. On s'est parlé qu'une fois, on était en boîte de nuit à Aix-en-Provence avec Deneuve déchaîné sur la piste, parce que Catherine, c'est une folle furieuse magnifique. Et François était là, regardait, puis il avait les Celtiques légendaires au-dessus du bras, et les cigarettes redoutables. Vous fumez, Jean-François, vous voulez une cigarette? Oh oui, non, oh oui, François, je veux bien. Bah, c'est tout ce qu'on s'est dit pendant tout le film.
Il vous impressionnait?
Ah oui, oh ben, terriblement. Et il avait de l'attention. La preuve, c'est qu'après, oh ben non, moi j'ai fait tous les films. On ne m'a pas demandé. Je dis, c'est quand même lui qui disait, il faut prendre machin.
Vous avez exercé plusieurs métiers dans ces années-là. Ouais. Par exemple, sur les films de Truffaut, en l'occurrence, vous avez été assistant à la mise en scène sur L'Enfant Sauvage et pour La Nuit Américaine. Mais vous avez aussi un moment travaillé dans l'équipe d'écho sur le tournage d'Une Belle Fille comme moi. Mmh. Je crois, pourquoi être passé comme ça par plusieurs métiers? Vous aviez envie de découvrir tous les aspects univers.
C'était ce que voulait le patron. Il y avait Marcel Berber, son vieux complice et producteur du film, qui était à côté, ils avaient la porte qui communiquait. Truffaut avait la porte blindée en cuir et tout, mais légèrement entrouverte. Marcel nous recevait. Oh. En même temps, arriver à nous carotter sur le pognon, c'était formidable, quoi. Parce qu'on sortait, il dit, bon, dis donc, cow-boy, là, cette fois-ci, vous êtes assistant à la déco, etc. Il n'y a pas de problème, super, il n'y a pas de problème. Bon, alors, pour les effraiements, c'est comme ça, hein, on sortait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh merde, on s'est encore fait enfler. Rapport formidable, d'un seul coup, on disait, tu es assistant d'écho, ben je suis assistant d'écho. Ah, t'es à la régie, ben je suis à la régie. Et d'un seul coup, ça te permet de faire absolument tous les boulots, ce qui t'aide après énormément, ce qui a été mon cas.
Dans La Nuit Américaine, vous incarnez comme d'autres membres de l'équipe votre rôle en quelque sorte. Mmh. C'est l'un des tout premiers rôles que vous avez joué comme acteur. Vous jouez dans le film le rôle de l'assistant du film dans le film, puisque, comme chacun sait, La Nuit Américaine, c'est l'histoire d'un tournage. C'est donc l'une de vos toutes premières expériences comme acteur. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir de ce tournage-là?
Très bon souvenir de La Nuit Américaine, et très étrange, parce qu'on ne dormait pas. Il y avait des fêtes, ça, c'est du temps où il y avait des fêtes dans le cinéma. Il n'y a plus de fêtes nulle part, hein, parce que maintenant, l'alcool ou je ne sais pas quoi, les responsabilités, bobo. Et là, Truffaut, il y avait 4 fêtes par semaine obligatoires sur la feuille de service, c'est-à-dire le plan de travail de chaque jour. Fêtes obligatoires. Alors, anniversaire de Jackie Bisset, anniversaire de ceci, machin pour cela, etc. Je ne me suis jamais couché où il faisait nuit. Je me couchais, il faisait jour. 2 heures après, sur le plateau, tout le monde, lunettes noires, fatigue totale, on tournait. François, lui, venait à ses fêtes, il restait une demi-heure, une petite goutte de champagne, un petit mot de tac-tac-tac, il rentrait chez lui, écrivait les textes pour le lendemain, ce qui est d'une liberté extraordinaire. Donc le lendemain, boubou, il sortait les textes. François tournait comme ça, quoi. Donc c'était un souvenir. Et en même temps, je trouvais le film absolument nul, tout ce qu'on tournait, parce que le off du film était beaucoup plus intéressant. Par exemple, un soir, on quitte le tournage. Glenn roule avec Walter Ball. Ils sont sur des Norton Commando.
Pierre William Glenn, le chef.
Suivi par son acolyte Walter Ball. Il se prend une voiture. Il explose. Viouf! Une deux chevaux qui traverse malencontreusement entièrement de ses torts. Walter croyait qu'il était mort. Et Glenn à l'hôpital le soir même. Perfusion, machin.
Et Valentina Cortés qui arrive, qui dit non, mais je veux pas, attends, on va arrêter le film.
Là, il est 3h20 du matin. Le lendemain, à 9h, on continue avec François comme s'il ne s'est rien passé. Donc Walter Ball, qui a les clavicules cassées, qui joue l'opérateur dans le film, et ben, il a un bras dans le sac, et le film continue. Et là, bon, nous allons passer à la séquence déguisement. Oui, oui, nous reprenons des... J'avais l'impression qu'on tournait un film de nul. Ou un film, c'est pas comme ça. J'avais l'impression d'une trahison. Il se passait tellement de choses off que de dire, voilà un film sur le cinéma, comment ça se passe, je trouvais ça un peu léger.
Un autre réalisateur avec qui vous travaillez pendant ces années-là, on est dans les années 70, Jean-François Stenin, ouais. C'est Jacques Rivette. Mmh. Vous avez fait partie de l'aventure qui a été Out One,
ouais.
Out en réalité, mmh. qui est un film fleuve, hein, c'est un film en feuilleton qui fait plus de 12 heures, même si des années plus tard, Rivette en a fait une version courte qui fait seulement
4 heures.
Entre guillemets 4 heures, exactement. Le tournage laissait une part très large aux acteurs et à l'improvisation. Mmh. Vous-même, vous jouez de nouveau un petit rôle dans le film. On vous voit dans une scène assez folle avec Juliette Berthaud. Vous voilà. êtes Marlon. Quel souvenir vous gardez de cette expérience-là et de Jacques Rivette ?
Oh là, magnifique. Absolument magnifique. Parce que, autant Truffaut était une star déjà reconnue, il faisait un film tous les deux ans, etc. Bon, moi, j'étais la 150e roue du carrosse. Film du carrosse, qui était le nom de sa production. Autant Rivette, produit par le formidable aussi Tchalgatchev, on n'avait pas en rond. On tournait, liberté totale. Michael Lonsdale, que tu l'as, on peut. Puis des fous, Clémenti, Calfon, Bulogier, oh. Moretti, oh là là. Et puis au milieu de tout ça, il y avait une petite séquence d'arnaque où je suis là avec Juliette Casy, l'équipé sauvage, la casquette, le bouton de cuir, la. Et je tourne un petit truc, on l'a fait ça entre 16h et 18h à Bastille. Et là, j'ai senti la vie se mettre à tourner dans l'autre sens, une émotion. Je me suis dit, c'est parce que je suis archi mauvais, ce qui était vrai. Enfin, ce que je ressentais profondément. Et puis j'ai vu que 2 heures après, on faisait un autre plan et que tout le monde s'en foutait. Ah, j'ai senti un drôle de truc. Et j'ai seulement compris que cette séquence plaisait à Rivette, c'est quand il a fait le montage qu'il a réduit à 4h30 au lieu de 12h qui était prévu, la scène y était toujours. Donc je me suis dit, peut-être pas si mal que ça s'il l'a gardé, ce qui était vrai.
Mais est-ce que c'était un pur hasard de vous retrouver devant la caméra, Jean-François Stenin, ou est-ce que ça veut dire quand même que quelque part, c'était aussi un désir qui remontait à plus loin ?
Désir sûrement inconscient. Désir inconscient, mais complètement, moi, non, quand je tournais. Non. Là, c'est le début, mais après, je suis devenu super vedette, je le dis sans orgueil. J'étais un des très bons à Paris. On m'a proposé 20 longs métrages que j'ai refusés avant de faire mon premier film Passe-Montagne. Donc, des trucs qui se passaient aux Indes, tout un tas. J'étais vraiment fait assistant aussi avec Joseph Lozet sur Monsieur Klein. J'ai fait 2-3 jours avec Luc Béraud et on était des redoutables. Ayant mis un temps très long, j'en parlais avec mon copain Mathieu Amalric, lui à 16 ans, il était assistant déjà, il travaillait. Moi j'avais l'impression d'être très vieux, j'ai commencé à être tout content parce qu'à 23 ans, j'avais le droit d'aller garer la Jaguar de Truffaut, qui m'avait dit un jour, vous en faites pas Jean-François, ce Jaguar vous en aurez une un jour. Bon, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais donc j'étais fin heureux comme premier assistant, très demandé, j'avais aucune envie d'être acteur par respect. C'est-à-dire quand tu es embauché dans la Scuderia Ferrari, c'est toi qui fais les changements de pneus, comme on voit tous les ans sur les Grands Prix, le gars qui change les pneus, c'est assez terrible, parce que selon si la voiture perd une seconde, le gars il est cuit, t'as pas envie d'être pilote, t'as envie que de l'année d'après, on te réinvite à changer à nouveau les pneus sur les Ferrari, ou sur les Mercedes, ou... Donc là, t'as pas envie d'être pilote. T'es très content d'être à ta place et qu'on te redemande. T'as pas du tout. Voilà, j'ai aucune envie.
Malgré tout, malgré cette absence d'envie, ouais. François Truffaut, toujours lui, vous écrit un rôle. Je crois qu'il a écrit le rôle pour vous, un rôle important pour le coup. C'était dans L'argent de poche en 1974. Vous incarniez l'instituteur.
Ouais.
De la classe. Il y a une scène assez bouleversante dans le film à la fin. Vous avez un long monologue. L'instituteur décide de parler aux enfants, puisqu'on vient d'apprendre que l'un des élèves de la classe était un enfant maltraité par ses parents. À votre avis, pourquoi Truffaut a-t-il écrit ce rôle pour vous ?
Alors là, le mystère est toujours là. C'était très troublant pour moi, très fort, quoi. D'ailleurs, je ne voulais plus être du tout assistant. À ce moment-là, quand j'ai vu le rôle... Alors pareil, j'ai une petite diversion, mais ça va retomber pareil. J'étais assistant de Barbet Schroeder sur un film qui s'appelait Maîtresse avec Depardieu et Bulogier. Et puis on attendait Gérard parce qu'il tournait 1900 en Italie avec De Niro et toute la bande. Il était en retard et donc on avait répété Nestor Almendros à la photo. Moi, j'avais écrit une vraie Bible. Tout le film était storyboardé complètement. J'avais écrit un truc. Bon, et là, le gros GG, il arrive de là. Et moi, je deviens la tête de turc immédiatement. Ça arrive souvent au cinéma. C'est pas méchant, mais on se dit, ça peut être n'importe qui, un truc. Et l'autre, dès le début, il commence à me dire, mais tu veux le faire, tu veux le faire. T'es pour mon pognon, tu veux le faire, je sens, tu veux le faire. Moi, je dis, mais pas du tout. Attends, je dis, Gérard, c'est la scène 53, là, tu te lèves, tu vas là, là. Ah, je vais, non, pas du tout, je me gratte les couilles, je vais au frigo, je mange, j'attrape un steak. Je dis, tu vas pas du tout, là. On est en reflet dans la glace, là, il y a un travelling, c'est au 75 mm, tu vas de là à là et là. Et il y avait des places. Or, Barbet, 1m80, doublait Bulogier qui fait 1m50, et moi je doublais le gros GG, mais uniquement pour les places, c'est pas question de jouer. Tu vas de là à là, dans le timing du dialogue, et l'autre était là, tu veux le faire. Puis, d'un seul coup, appelle Truffaut, l'argent de poche, etc. Ah, je reviens catastrophé du tournage et excité. Parce que François m'a jamais dit on va travailler ensemble. Il m'a juste dit ça se passe bien avec Barbet. Oui. Vous pourriez être le 27 à Thiers. Là, ce serait bien que vous soyez deux jours avant le film. Oh, je rentre sur le tournage. Et je dis à Gérard, il m'arrive un truc. Là, il y a Truffaut qui, voilà, il y a un rôle et tout. Dit, mais je te le dis depuis le début. Et là, il me dit, ça c'est Depardieu pur, comme il est. L'autre dit, mais combien qu'il te donne ? J'y attends. Gérard, on ne se comprend pas. Il me donne un rôle principal. Puis il me dit, je te dirai deux, trois trucs. Alors là, c'est un dernier jour. J'ai fait gagner une semaine sur le plan de travail. J'étais balèze quand même. C'est un film produit par Gaumont. Fait gagner une semaine pour être au rendez-vous qu'avait dit Truffaut. Là, dernier jour arrive. On va au bistrot. Ricard, chut. Il voit, je mange les ongles. Il me dit, je mange les ongles, ben arrête. Ça va t'énerver, tu vois, c'est bon. Puis après, il me dit, oh, ben là, ça doit être une histoire avec les gamins, hein, avec des gamins. Ben, joue avec eux. Pense pas à ta gueule. Tu les regardes, les gamins, tu les écoutes, tu vas voir, c'est dur. Hein. Puis là, il me dit un truc dont j'ai encore l'écho et qui m'a servi toute ma vie d'acteur, qui va me servir encore, j'espère. C'est qu'il me dit, à un moment, ça va pas. Alors, tu leur dis au Truffaut, ou à l'assistant, tu leur dis, ah oui, ah j'ai compris, ah d'accord. Puis au moment du clap, tu fais ce que tu veux, t'en as plus rien à foutre.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathilde Wagman avec Jean-François Stévenin. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.